Et vous tous qui nous écoutez, passez une excellente journée RTL, il est 9h.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
À un peu plus de 15 jours de la finale de l'Eurovision, Marie-Myriam, l'éternelle dernière gagnante pour la France, raconte son histoire dans un livre de souvenirs qui paraîtra mercredi prochain. Laurent Marsic l'a rencontrée pour quelques confidences. À suivre d'autres idées de lecture, au rayon livres de poche, Bernard Lehu a sélectionné pour nous des romans signés Pierre Lemaître, Catherine Poulain ou Olivier Norek. Et si vous préférez les BD, Monique Younes nous présentera la bande dessinée RTL du mois d'avril. Il s'agit du premier tome d'une nouvelle trilogie futuriste. Charlotte Arrigoni nous livrera ses express du jour. Et puis la série The Missing avec Checky Cario revient en deuxième saison ce soir sur France 3. Ce sera l'un des choix télévisés d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Elle est celle qu'on appelle chaque année pour parler de l'Eurovision. Elle, c'est évidemment Marie-Myriam, dernière gagnante française en 1977 avec L'Oiseau et l'Enfant. Mais Marie-Myriam, c'est une vie remplie et bien remplie, faite de musique brésilienne, de concerts au bout du monde et de hasard, d'innombrables et heureux hasards. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré Marie-Myriam.
Myriam Lopez, née en Afrique, au Congo, le 8 mai 1957. Mais c'est à Paris qu'elle va grandir et s'épanouir avec des parents qui l'entourent d'une infinie tendresse, raconte-t-elle. Son enfance, elle va la passer dans le 20e arrondissement de Paris. Le QG de la famille s'appelle le Ribatejo. C'est le seul restaurant portugais du quartier de la rue Planchat, tenu par ses parents. On est à quelques centaines de mètres de la place de la Nation. Elle est à peine majeure lorsqu'un jour, un homme, un client, pousse la porte du restaurant. Un certain Jean-Paul Carat, faiseur de stars, chanteur, mélodiste, compositeur et surtout monsieur Eurovision.
Ce jour-là, c'était un jeudi, donc moi, j'avais pas cours le jeudi. Et il aurait pu venir un vendredi et rien ne se serait passé de tel. J'avais la chance d'avoir au sous-sol, mes parents avaient fait une salle pour justement ne plus déranger les voisins, pour que le fado puisse être chanté en sous-sol. Du coup, moi, l'après-midi, cette salle était totalement fermée et libre. Sauf qu'évidemment, les sons montent. Alors Jean-Paul m'a entendu chanter.
À ce moment-là, quand il y a cette rencontre et qu'il vous dit « je vous emmène à l'Eurovision et on va gagner », vous y croyez pas du tout?
Absolument pas. D'abord, déjà me dire « je vais vous emmener à l'Eurovision », j'y croyais pas. Je suis rue Planchat quand même, dans le 20e. Je connais personne dans le showbiz, quoi. Et puis bon, j'étais tellement loin de ça, d'imaginer rencontrer quelqu'un qui lui avait un pied dedans. Il a écrit un papier qu'il a mis à l'intérieur des mains de ma maman disant « votre fille va gagner l'Eurovision ».
Myriam Lopez est rebaptisée Marie-Myriam, ça passe mieux. Sa chanson, signée Jean-Paul Carat, donc, et Joe Grassi, s'appelle L'Oiseau et l'Enfant, le 7 mai 1977, avec une chanson rabotée de plusieurs secondes parce que trop longue aux yeux du règlement de l'Eurovision. Elle monte donc sur la scène du centre de conférence à Londres. C'est la finale de l'Eurovision.
Dans ma tête, j'avais deux choses. J'avais les 8 secondes où on était trop long de 8 secondes. Le réalisateur avait tout calculé. Et surtout, ces 8 premières mesures a cappella. Alors, 8 mesures, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme quand on doit démarrer a cappella.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux.
Il faut être fou pour faire ça. Je vais jamais y arriver. Et puis, il y a l'adrénaline. Il y a le côté, non, quand même, allez, il faut y aller, quoi.
Et cette Eurovision a été une suite de galères. Des agents de maisons de disques plus occupés à faire du shopping dans Londres qu'à s'occuper de leur artiste, jusqu'à la tuile finale, quand on se rencontre, dernier moment qu'on a oublié à Paris, les fourreaux des robes de ses choristes. Les robes étaient transparentes, mais c'est pas grave, Marie-Myriam est là pour gagner, et elle va le faire.
Ladies and gentlemen, the winner of the Eurovision Song Contest for 1977 is France.
Il y a le cœur, ça fait un... Genre, on manque de respirer, quoi. On a du mal à respirer, les larmes montent. J'arrive plus à arrêter les larmes. Puis cette victoire, et puis mon papa dans le public, et puis tout ce à quoi je pensais, la joie de ma maman, ma sœur. J'ai fait ça pour eux aussi. Je suis fière d'avoir vendu énormément de disques, c'est vrai. Mais je suis encore plus fière de ne jamais avoir eu la grosse tête, que ça ne me soit jamais monté à la tête, parce que c'était dans mes bagages, ça.
Qu'est-ce qu'ils vous disent vos parents, votre papa, votre maman qui est restée à Paris, qui s'est enfermée dans une chambre en écoutant
ma maman,
une radio allemande pour pas entendre?
Pour pas entendre, parce qu'à l'époque c'était diffusé. Ma maman, elle était en larmes quand je suis rentrée. Mon père aussi. Mon père, quand il m'a retrouvée dans la salle de conférence, il avait un air tellement sérieux. Ça m'a fait bizarre. Et je voyais les larmes là au bord, comme ça, qui se bagarraient parce qu'il voulait pas perdre la face, quoi. Et puis lorsque je suis rentrée en France, déjà à l'aéroport, les douaniers, mais tout le monde, c'était la fête pour tout le monde, quoi. Le drapeau français, c'était ma médaille.
Alors on imagine le tourbillon médiatique, elle a tout juste 20 ans, hein, c'est ça ?
Pile 20 ans, le 8 mai 77, le lendemain, encore un signe, la petite fille de la rue Planchat doit construire sa carrière un peu comme les gagnants de The Voice en fait aujourd'hui. Elle est connue mais elle a une identité à construire et très vite elle va surprendre.
J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque ma maison de disques a bien voulu me laisser enregistrer une chanson mais alors qui était à l'opposé et donc j'ai surpris beaucoup de gens. Alors c'est sûr que les ventes ont été catastrophiques, aujourd'hui j'aurais été disque d'or quand même.
Il a vendu sa vieille montre et son costume et la statue de sa patron portant son nom. Il a pris quelques
vins. À l'époque, c'était des ventes catastrophiques, mais je suis contente de l'avoir fait parce que c'est une question aussi d'image. C'est une question de dire, voilà, moi j'aime pas que ça. Je suis fière d'avoir chanté L'oiseau l'enfant, j'adore cette chanson. Donc je ne crache pas dans la soupe, mais comme un peintre, je ne peux pas aimer qu'une couleur. J'aime plusieurs couleurs.
Il y aura la notoriété, la presse à scandale, un amour détruit par la jalousie avec Patrick Sébastien et une rencontre avec l'homme de sa vie, Michel, disparu brutalement en 2013. Il y a quelque chose qui ne quittera jamais la petite fille du Ribatejo, c'est la musique et l'Eurovision. Je lui ai demandé si ça lui pesait pas un peu quand même qu'on l'appelle chaque année pour parler de l'Eurovision.
Non, pas du tout, parce que le fait c'est que je suis toujours très fière d'avoir remporté cette médaille et mon Dieu, je souhaite vraiment, depuis tellement d'années, qu'il y en ait une autre. Puis je pense que si Alma gagne, là, c'est... Waouh, ça va être un truc énorme.
Vous l'aimez bien, la chanson ?
Moi, j'aime bien, Requiem, moi, j'aime bien.
Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un Requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a de...
Ça sera pour le 13 mai à l'Eurovision, Alma.
Et toutes ces confidences, Laurent, de Marie Myriam, la fille du Ribatejo, nom du restaurant de ses parents, eh bien vous pouvez les lire dans un livre qui est à paraître le 3 mai aux éditions de l'Archipel.
Et comme la musique est indissociable de sa vie, eh bien Marie Myriam sort aussi un double CD retraçant 40 ans de carrière avec l'original de L'oiseau et l'enfant dessus. C'est chez Wagram Music. Et puis vous pouvez noter qu'elle sera aussi l'invitée d'À la bonne heure de Stéphane Bern, vendredi à 11h.
Rendez-vous demain donc à la bonne heure chez Stéphane Bern avec Marie Myriam et dans quelques instants avec Isabelle Morini-Bosque pour nos résultats d'audience de la télévision hier soir. A tout de suite, passez une bonne journée à l'écoute d'RTL.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Chère Isabelle Morini-Bosque, à 9h08 sur l'antenne d'RTL, et après vous y avez pu régler vos yeux comme d'habitude pour vous nous donner les résultats d'audience avec Médiamétrie.
Ça devient de plus en plus dur.
Mais non.
Alors, eh bien, Grey's Anatomy est en tête, mais ce n'est pas un très fort score. Hein. 4 millions de téléspectateurs et 16% du public sur la une. 10% est en deuxième position. Ah ben, progresse par rapport à la semaine dernière, puisqu'on en est à 3 600 000 téléspectateurs contre 3 1 2 la semaine dernière. Donc, c'est bien. Et le football, PSG Monaco, est en troisième position. Ce n'est pas un très fort score, hein, 2 912 000. On a
3.
Vu mieux, c'est sur France 3. Mmh. Et c'est 13% du public sur la 3. C'était quoi, la Coupe de France, c'est ça, un truc
c'est
comme
la
ça
demi-finale de Coupe de France.
Voilà.
Ce sont des personnes qui sont 11 dans chaque
et côté. Alors, là,
5 à 0. Un ballon rond, vous voyez, au milieu.
Il y a un choc nucléaire, il y a un truc qui se passe. Là, si ce n'est pas une erreur, HD1. Alors, HD1, c'est quand même pas la chaîne qui fait habituellement le plus d'audience, et bien quand même rassemble 1 400 000 téléspectateurs devant une série que, c'est vrai, le public adore, Section de recherche. Ça, c'est énorme, c'est une rediff.
Je suis, comme vous, un petit peu stupéfait.
Ben oui.
HD1, je ne sais même pas où c'est sur le...
On va
se renseigner. Bon, en tout cas, c'est très bien. Bon, allez, les Express. Hein.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Le monde du cinéma perd l'une de ses étoiles.
Oui, à savoir Jonathan Demme, le réalisateur américain, est mort à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer de l'œsophage. En 1992, son film Le silence des agneaux avec Jodie Foster et Anthony Hopkins a décroché pas moins de 5 Oscars à Hollywood. Dans la foulée, Jonathan Demme a réalisé Philadelphia avec Tom Hanks. L'acteur a été aussi récompensé à Hollywood comme Bruce Springsteen pour cette chanson devenue culte. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. L'une des des chansons de la bande originale de Philadelphia, signée donc Bruce Springsteen, le boss qui sur Twitter a salué cette nuit le travail du cinéaste. Il était une inspiration pour moi, un magnifique réalisateur, un grand esprit.
Vous l'entendez régulièrement dans Laissez-vous tenter. Philippe Corbet, correspondant d'RTL à New York, va publier J'irai danser à Orlando, ce sera le 3 mai prochain.
Un livre dans lequel Philippe revient sur le massacre revendiqué par l'État islamique de 49 jeunes dans une discothèque de Floride fréquentée par la communauté homosexuelle. C'était en juin 2016. Philippe était arrivé à Orlando quelques heures plus tard pour RTL, un reportage qui l'a évidemment profondément marqué.
Et donc j'ai écrit dans l'urgence, en un mois, ces quelques pages où au fond j'essaie de raconter l'histoire d'Orlando, de raconter l'histoire des victimes d'Orlando, mais aussi de comprendre pourquoi est-ce que ça faisait écho à beaucoup d'autres choses dans mon histoire personnelle, mais dans l'histoire de beaucoup de gens aux États-Unis, et de replacer au fond cet attentat tragique dans une histoire plus large d'hommes et de femmes qui se sont battus pour passer en quelques décennies de la honte et de l'obscurité à la lumière et à la joie. C'est pas du reportage, c'est pas de la littérature, c'est pas un récit personnel, c'est une forme de journal. J'ai voulu mettre sur un papier tout ce que je ressentais en moi à ce propos.
Philippe Corbet, à votre micro, Bernard Lehu. J'irai danser à Orlando paraît donc le 3 mai prochain chez Grasset.
Et Philippe sera l'invité de Marc-Olivier Fogiel ce soir donc à 18h.
Et contrairement à ce que dit Philippe, son livre c'est aussi de la littérature, vraiment très beau livre.
Hommage donc de Bernard à Philippe. Audrey Azoulay, elle vise l'UNESCO pour sa reconversion.
La future ex-ministre de la Culture brigue la direction générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont le siège mondial est situé à Paris. Audrey Azoulay aimerait poursuivre son engagement en faveur de la culture. Le poste est prestigieux. L'UNESCO compte 195 États membres et est doté d'un budget annuel de plus de 650 millions de dollars. Alors pourquoi rêve-t-elle de ce poste ? Pour RTL ce matin, elle nous en dit plus.
L'UNESCO, c'est une organisation internationale très particulière qui a été créée au lendemain de la guerre sur l'idée que pour reconstruire le monde, il fallait le reconstruire aussi à partir de valeurs, à partir de l'éducation, à partir de tout ce qui était immatériel et pas uniquement le reconstruire avec du béton, avec des investissements. Et c'est ce rôle de conscience universelle qu'est censé jouer l'UNESCO qui m'intéresse et que je trouve particulièrement pertinent aussi dans le monde d'aujourd'hui qui n'est pas le monde de 1945 mais qui est confronté à des crises, à des difficultés dans lesquelles je crois que la culture, l'éducation, les sciences, la communication aussi qui peut je pense être majeure dans le monde de demain.
Audrey Azoulay, micro RTL de Steven Bellery. L'élection pour le poste aura lieu en octobre prochain.
Une drôle de lettre de Marcel Proust. Elle s'est vendue hier aux enchères à Paris pour 28 336 euros.
Oui, lettre datée
du... Vendue. Bah non, excuse-moi. J'ai fait le marteau du...
Vous avez réveillé.
Nous
n'avons pas fait l'objet d'une quelconque attaque.
Donc cette lettre est datée du 15 juillet 1919 dans laquelle l'écrivain dénonce les ébats trop bruyants de ses voisins.
Ah bah justement, oui.
On y est. Marcel Proust écrit « Les voisins dont me sépare la cloison font l'amour tous les jours avec une frénésie dont je suis jaloux. Bah, » Il ajoute « J'envie ces gens qui peuvent pousser des cris tels que la première fois j'ai cru à un assassinat. » Marcel Proust restera dans cet appartement que 4 mois. La jouissance de ses voisins aura eu raison de lui.
Et du coup, il ne pouvait plus se coucher de bonheur.
Non, il ne pouvait plus se coucher de bonheur. Merci Charlotte, c'était donc les express de Laissez-vous tenter. Bernard Lehu, ben voilà, oui. Il est logique qu'on vous retrouve maintenant. Vous nous proposez d'aller faire un petit tour dans votre... bibliothèque de livres de poche pour de grandes lectures à petit prix et on démarre en compagnie de Pierre Lemaître.
Avec la sortie au livre de poche donc de son roman « Trois jours et une vie », le Goncourt 2013 avec « Au revoir là-haut », renoue ici avec ses premières amours, le roman noir. Dans une petite ville de province, un enfant de 6 ans est tué, la police cherche en vain son meurtrier. Alors nous, lecteurs, le connaissons d'entrée, il s'agit d'Antoine, 12 ans, le voisin de la petite victime. Terrifié par son geste, Antoine est persuadé d'être très rapidement démasqué. Or, le destin en décidera autrement. Il était venu nous en parler ici même, vous souvenez, Yves, l'année dernière. Alors, sauver Antoine pour autant, libéré du poids de son crime ? Eh bien non, en réalité, il est condamné à perpétuité à la peur d'être rattrapé par son passé. Lors de sa première parution l'an dernier, Pierre Lemaître nous avait expliqué d'où lui était venue l'idée de 3 jours et une vie.
Alors d'abord d'un mystère, je crois, qui frappe tout le monde dans les faits divers, c'est les enfants meurtriers. C'est abyssal de penser à ça. On se demande, mais comment fait-on pour devenir un meurtrier? Alors moi, je ne voulais pas travailler sur comment est-ce qu'on devient un meurtrier, parce que là, c'est un travail de psychologie, peut-être même de sociologie, qui aurait été, je pense, un petit peu, qui aurait outrepassé la vocation du roman. Ce qui m'intéressait, c'est de faire un peu comme dans Au revoir là-haut, c'est de prendre l'événement après. C'est pas tellement de se dire comment on devient un meurtrier, mais quand on l'est, comment est-ce qu'on vit avec ça? Et là, quand il commet cet acte qui est purement accidentel, au fond, il a quand même quelque chose qu'il comprend, c'est que son enfance vient de se terminer. Il ne sait pas bien ce que ça va devenir, mais il sait qu'il vient de faire quelque chose qui l'a propulsé dans l'âge adulte, avec lequel il va devoir vivre. Or, il n'est pas prêt à être adulte parce qu'il n'a que 12 ans. Et tout le livre est tendu en quelque sorte par ça.
Et alors, pour savoir comment tout cela se terminera, vous n'avez plus qu'à vous précipiter sur le roman de Pierre Lemaitre, un bon cru, hein. 3 jours et une vie au livre de poche.
Alors, deuxième lecture, l'une des révélations de 2016, Le Grand Marin de Catherine Poulain.
Pendant 20 ans, Catherine Poulain a bourlingué à travers le monde en exerçant toutes sortes de métiers. Serveuse de bar à Hong Kong, employée dans une conserverie de poissons en Islande, ouvrière dans les chantiers navals d'Amérique, ramasseuse de pommes au Canada et pêcheuse de haute mer en Alaska, métier de chien dans le froid et les tempêtes, a fortiori pour Catherine Poulain, seule femme dans ce monde d'hommes.
J'ai toujours aimé cette espèce de combat. Je n'ai jamais aimé la facilité, le train-train. Je sais, toute petite enfant, je me promenais déjà, il fallait toujours que j'ai sur moi un canif et une boîte d'allumettes au cas où je serais tombée dans une grotte ou dans un souterrain qu'il faille survivre, quoi. Je voulais être une aventurière, déjà enfant. Et j'ai beaucoup voyagé, donc très très jeune. Je me souviens, la première fois que je suis partie, j'étais en Asie, j'avais 20 ans. Et une vieille dame m'a écrit une lettre. M'a dit, que fuis-tu? Tu dois pousser là où Dieu t'a planté. Je lui ai répondu une lettre où je lui ai dit, Dieu m'a planté sur cette terre et j'ai envie de voir ce monde. Et j'avais l'impression que c'était évident, j'avais cette curiosité, je voulais aller voir le monde.
Voilà, fascinante, hein, Catherine Poulain, petit bout de femme à la voix fluette, pourtant solide comme un roc, et sensation littéraire de l'an dernier, embarquée sans hésiter pour son incroyable récit d'aventure. Le Grand Marin vient de sortir, là aussi en poche, chez Point.
On termine par un polar, un vrai de vrai, Surtension, excusez-moi, signé Olivier Norek.
Ex-lieutenant de police en Seine-Saint-Denis, alors le crime, il en connaît un rayon, ses livres sont criants de vérité, et son double littéraire, le capitaine Coste, est devenu l'un des héros les plus attachants du polar français, Yves. Et alors cette fois-ci, vous savez qu'il est confronté à une drôle d'affaire, l'évasion de 5 criminels, plus redoutables les uns que les autres. Une évasion imaginée par la sœur de l'un d'entre eux et qui va mettre sur les dents, en surtension, le capitaine Coste et ses hommes.
Je voulais que mes flics soient complètement dépassés par cette enquête. Et tout ça est dû à cette jeune fille, Alexandra, qui va décider de faire sortir son frère de prison, la prison la plus dangereuse de France. Et pour le faire sortir, elle va penser à une évasion, mais une évasion intelligente, sans violence, sans hélicoptère, ni explosion. Une évasion qui, malheureusement, va aussi faciliter la sortie de prison de 5 ultra dangereux criminels. Ouais. Et nos flics ne vont pas comprendre pourquoi ils ont 5 criminels qui sortent en même temps et comment ils vont réussir à les traquer les 5 et à les interpeller les 5. Donc voilà, effectivement, cette équipe va être amenée à son point de surtension parce qu'ils vont se retrouver en face d'une enquête à 5 têtes, d'une enquête hydre.
Et en surtension, le lecteur l'est aussi au fil de l'intrigue magistrale déployée par Olivier Norek. Surtension, avec un S1 au pluriel, d'Olivier Norek, est à lire chez Pocket. Voilà, tout cela a glissé dans la poche pour ces longs week-ends là, qui se profilent du 1er et du 8 mai.
Merci Bernard Lehu. On repart du côté de la télévision avec Isabelle Morini-Bosse qui on signale ce soir d'abord sur TF1 la spéciale Élysée 2017. Après Marine Le Pen mardi, c'est Emmanuel Macron qui est interrogé ce soir par Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray.
Conclusion, n'attendez pas jusqu'à 22h15 Alice Nevers annoncée ce soir. Son retour est reporté au jeudi 4 mai. Vous perdez rien pour attendre, comme dit l'autre. C'est un bon cru.
Mais il est question d'un autre retour de série ce soir, The Missing sur France 3.
Ah oui, il y a 2 ans, les téléspectateurs entendaient ce générique. Bon, on va pas en abuser. Il découvrait surtout Julien Baptiste, Checky Cario, ce grand flic alors chargé de retrouver un jeune Anglais disparu à Chalon-sur-Saône. Il y avait dans cette première saison beaucoup de passion et de compassion. Comment supporter l'insupportable pour des parents? On évitait le côté glauque, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Bref, cette saison 1 était une réussite. La 2 commence par quelques images de 2003. Une ado tatouée marche sur une route enneigée. Une camionnette jaune s'arrête. À cette image se superpose celle d'une autre jeune fille en pyjama, hâve et concave, qui marche pieds nus dans la neige et s'effondre sur une place en plein marché de Noël en Allemagne. Ça sent vraiment le sapin. La suite se passe dans un collège. Une prof est appelée. La suite, la voici.
Madame Webster, Je suis le sergent F. Stone de la police militaire, 5e brigade d'investigation.
Je m'appelle Jörn Lennart, des services de la police allemande.
Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment vous l'annoncer. Quoi ? Est-ce que c'est Sam ? Il va bien ? Une jeune femme est entrée dans Eckhausen hier et s'est effondrée sur Lindenstrasse. Elle a été conduite à l'hôpital d'Hanovre, où elle a immédiatement été opérée. Son état est stable. Je ne suis pas... Pourquoi vous...
Elle dit qu'elle s'appelle Alice Webster.
Qu'est-ce que vous dites ?
C'est donc sa fille. Julien Baptiste, flic à la retraite, va-t-il réapparaître ? Oui, heureusement, la militaire l'appelle.
Est-ce que vous êtes Monsieur Baptiste ?
Oui, vous êtes.
Je me présente, sergent F. Stone, de la police militaire, affecté à la garnison d'Eckhausen en Allemagne. Vous connaissez le nom d'Alice Webster ?
La jeune fille anglaise, elle a été portée disparue en 2003, non ?
Hier, elle est réapparue. Quand les ambulanciers lui ont demandé qui prévenir, elle a dit un nom. Celui d'une jeune femme, Sophie Giraud.
Quoi ? Sophie Giraud ?
Je sais bien que l'affaire remonte à 11 ou 12 ans déjà. Mais c'est vous qui supervisiez l'enquête sur son enlèvement. On ignore combien de temps il va falloir à Alice pour récupérer et pouvoir nous parler. J'espérais en attendant que vous accepteriez de regarder dans vos archives.
Vous pensez que
c'est ce qu'il va faire. Il va en Allemagne et découvre vite des failles dans le discours de la jeune fille. C'est parti pour une saison 2 haletante. On est d'autant plus accro que le scénario n'en rajoute pas dans l'horreur. Je le répète, notre flic, par exemple, est heureux en ménage. Pareil pour d'autres personnages et ça permet de tenir et de les soutenir. J'ai un bémol. La série joue sur trois niveaux, 2003, 2014, 2017, et ses perpétuels allers-retours sont parfois fatigants. Faut ajuster, même s'il y a les dates très claires sur l'écran. Je sais que ça fait moderne, c'est dangereux en télé. Pour moi, c'est parfois trop. Faut arrêter de considérer que la chronologie, c'est ringard. À part ça, c'est vraiment bien. Alors accrochez-vous, parce que plus ça va, plus les séquences éclatées qui vous semblent sans incohérentes, eh ben, évidemment, ont un sens.
Pour l'énigme.
Voilà. C'est formidable. La 3. C'était F1 qui avait les droits, qui les a vendus à la 3, finalement.
Alors après, on peut aller sur la 2 pour voir un portrait de l'ancien patron de Total, Christophe de Margerie.
Oui, un homme ultra brillant mort le 20 octobre 2014 dans un accident d'avion après une soirée avec le gratin du tout Moscou. Son avion privé heurte au décollage une déneigeuse non signalée alors qu'il n'y a pas de neige. Pour la famille, c'est vraiment un accident, il ne faut pas voir de complot. Pas pour le monde des affaires russes et pour le compagnon de l'hôtesse de l'air, elle aussi décédée. Les auteurs de l'enquête ont retrouvé le conducteur de la déneigeuse, bientôt jugé, qui semble servir de fusible.
Qu'est-ce que vous pensez de la théorie selon laquelle vous auriez participé à un complot, à un assassinat déguisé en accident ?
On m'a posé 1000 fois la question. Le FSB m'a même fait passer au détecteur de mensonges. Mais moi, je sais bien que je suis né ici. Que je n'ai jamais quitté le pays, à part pour mon service militaire, en Allemagne de l'Est. Les enquêteurs ont perquisitionné, fouillé ma maison, regardé mes photos, épluché mes relevés de compte en banque. Mais il n'y avait rien à trouver. J'avais juste un compte sur lequel arrive ma paye.
Est-ce que le nom de Christophe de Margerie, ça vous disait quelque chose avant ce soir-là ?
Non, jusque-là, je n'en avais jamais entendu parler. Quand je vais à l'église, j'allume des cierges.
Voilà, c'est à la fin d'Envoyé spécial, donc vers 23h et quelques sur France 2.
Bon, ça vous a plu ?
Ah, mais j'ai trouvé ça très intéressant. J'avoue très humblement que je ne connaissais pas les dessous de cet accident.
On va marquer une nouvelle pause dans cette émission et on se retrouve avec Monique Younes qui est venue avec sous le bras son grand prix RTL du mois, Terre. C'est le premier tome de Rodolphe et Dubois. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Monique Younes,
oui.
C'est donc l'heure de la bande dessinée RTL d'avril. Elle couronne l'album de Rodolphe et Christophe Dubois, édité par Daniel Maguen, et qui a pour titre Terre, T-E-R, qui s'écrit en fait T-E-R, en majuscule.
Voilà. On ne sait pas exactement où se situe Terre, on sait juste qu'il existe sur Terre un village fortifié au milieu d'un désert hostile, où vivent retranchés une poignée d'humains. La mode de vie semble médiévale, mais comme je n'en étais pas certaine, j'ai demandé des précisions à Rodolphe. De quelle époque, de quel monde s'agit-il ?
Où sommes-nous ? Personne ne le sait. On est sur un monde qui interroge le lecteur, précisément comme vous le faites. Qui ressemble à notre Terre, à ce que fut notre Terre, à une forme de Moyen-Âge, effectivement, de société un petit peu à l'ancienne. Et il y aura une suite de surprises qui vont amener à remettre en cause les informations qu'on a perçues jusqu'alors. On va, par exemple, trouver des objets qui n'ont rien à voir avec ce passé. Fusée Tintin, telle que vendue dans les librairies spécialisées. On trouve également une guitare Fender. Il y a un certain nombre d'objets qui ne devraient pas avoir leur place là. Alors, où sommes-nous ? C'est la grande question. Mais comme je vous dis, j'y réponds pas.
Alors, on ignore beaucoup de choses. De Terre, on sait que c'est là que vit Maître Pipe. Pipe est un pilleur de tombes et c'est lors d'une de ses virées macabres qu'il va découvrir au fond d'un cercueil un homme vivant. Un beau jeune homme brun, intégralement nu. C'est notre héros. Il a perdu l'usage de la parole, il est amnésique et totalement pacifique.
Ah oui.
Seul signe distinctif, un tatouage gravé sur son épaule droite où on peut lire « Main d'or 1 ». Pip l'appelle donc Mandor, et c'est vrai que cette créature a des mains d'or. Il répare aussi bien les pendules que les grille-pains dont les habitants de Terre ont perdu l'usage. Rodolphe s'amuse à brouiller les pistes.
Ah, tout à fait. C'est une forme de Moyen-Âge qui aurait déjà visité le futur. Il y a un paradoxe, là. Son nom de main d'or est parfaitement justifié parce qu'il bricole un petit peu et ses mécaniques repartent. Et parmi ces mécaniques, il y en a une qui est une machine entre le projecteur et l'hologramme qui fait ressurgir des scènes du passé. Du passé, point d'interrogation, vu qu'on va assister à une partie de la bataille d'Angleterre avec des commentaires de Churchill le 11 septembre et même des éléments que nous, en tant que lecteurs de 2017, ne connaissons pas. On parle de la destruction de la Joconde et d'une toile de boucher. Donc, on arrive sur une période très très bizarre, quoi. Moi, je me suis amusé à créer une forme de vertige. Je trouve ça formidable de se laisser prendre par quelque chose et de douter.
Bon, alors, sans nous dévoiler la fin, Monique, dites-en-nous un peu plus, quand même, sur ce Mandor. D'où vient-il? Que veut-il?
Alors, Mandor est dans une quête identitaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et il s'avère très, très doué. Et même quand il est attaqué par une sorte de crocodile géant, il se révèle aussi un guerrier stupéfiant. Donc, la question se pose... Qui est ce Mandor? Il pourrait bien être le prophète dont parle le psaume 21 du livre 1er et qui dit « Alors surgira un homme des entrailles de terre qui montrera à tous le chemin à accomplir. Il n'aura ni bien ni vêtements et son seul langage sera celui du silence. » Alors si la prophétie se réalise, où ce nouveau Messie veut-il conduire la population? Les dignitaires religieux sont inquiets.
Les prêtres sont souvent inquiets. Il y en a même qui en font un petit fonds de commerce, je pense. Hein. Donc, il y a un petit clin d'œil, un petit peu ironique, peut-être, à certaines religions, en tout cas, à ce qu'elles ont été. Et là, ces prêtres sont en même temps les instances morales, politiques et militaires qui ont le monopole d'un savoir ancestral. Et cet individu qui arrive perturbe leur jeu et ils en ont peur. C'est vrai qu'on peut trouver des parallèles avec l'histoire du Christ et des religieux de son temps, par exemple. Mais bon, c'est des clins d'œil, simplement. Le centre du récit n'est pas là.
Oui, entre-temps...
Il a une belle voix de radio.
Ah, non, mais il est très bien. Entre-temps, Mandor réapprend à parler, tombe amoureux de Iss, la sœur de Pip, se bat contre des animaux fantastiques, découvre les plaisirs de la chair, devient l'ami du peuple qui se mobilise pour le libérer quand il se fait kidnapper par les prêtres jaloux de leurs prérogatives. Rodolphe a travaillé en tandem avec le dessinateur Christophe Dubois pour imaginer de toutes pièces cette planète inédite et ce personnage auquel on s'attache d'emblée, sur lequel nous ne connaissons rien et dont on attend beaucoup. Espérons qu'il saura répondre à notre attente dans les deux autres tomes prévus de la trilogie de Terre. En attendant, le tome 1 de Terre vient de paraître aux éditions Maguen et c'est la bande dessinée RTL d'avril.
Merci beaucoup Monique Younès. On se retrouve dans quelques instants pour remercier toute l'équipe et accueillir Julien Courbet. Passez une bonne journée à l'écoute d'RTL. Alors, Bernard Lehu, qui aime la ponctualité, est ravi. Non, mais si, disons-le, si vous étiez très satisfait que nous terminions à l'heure, voilà. Dans le bon timing, qu'on puisse rendre à notre camarade Julien Courbet dans de bonnes conditions, je n'invente rien.
Je confirme.
Vous veillez à la bonne marche de cette émission.
Quand Anthony Martin n'est pas là.
Anthony Martin n'est pas là, et aussi, je dirais, à sa bonne tenue morale et à son hygiène générale.
Certes,
voilà. C'est fantastique.
Non, mais c'est parce que je souhaite que nous rendions aujourd'hui
c'est fantastique.
Très ponctuellement à l'heure
la seule
à notre ami Julien Courbet.
Radio dans le monde qui fait 30 secondes pour dire qu'elle rend l'heure. C'est quand même incroyable, ça.
Vous pouvez RTL, écouter. Pardon. Il est 9h30.
Nous, on prend 5 minutes pour annoncer qu'on va rendre à l'heure. C'est génial. D'ailleurs, c'est le nom de l'émission. Maintenant, on va dire que de 9h28 à 9h30, il y a une nouvelle émission. Ça s'appelle On va rendre à l'heure, où l'on débat du fait que nous allons rendre
mais
à l'heure.
Non, c'est parce que parfois, je culpabilise un peu.
Mais voilà. Laissez. C'est pour moi. Ça me fait plaisir.
C'est vrai.
Je vous souhaite une bonne matinée et un bon vendredi demain.
Merci.
Merci.